Chapitre 48. La couronne de mariée. Joindre quelqu'un de chez Silentia Defense AB s'avère d'une difficulté déroutante. Tous les numéros disponibles sont autant d'accès au même labyrinthe de serveurs vocaux et d'informations préenregistrées. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Saga entrevoit enfin la possibilité de parler à quelqu'un en pressant la touche 9, suivie de la touche étoile, pour entrer en contact avec les vendeurs de l'entreprise. Elle est mise en relation avec la secrétaire du vendeur, ignore ses questions et lui fait part de la raison de son appel. La secrétaire reste d'abord muette, puis elle explique à Saga qu'elle a choisi le mauvais numéro et que le standard est sur le point de fermer.
« Je vais devoir vous demander de rappeler demain entre 9h et 11h et... »«
Veillez simplement à prévenir Pontus Salman qu'il recevra la visite de la sûreté aujourd'hui à 14h. » l'interrompt Saga en haussant le ton. Elle pianote sur un ordinateur.
« Je suis navrée, »
dit la secrétaire après un moment.
« Il est en réunion toute la journée. »«
Pas à 14h, » dit Saga.
« Si, il y a marqué qu'il... »«
Qu'il sera en entretien avec moi. »
« Je vais faire passer votre demande. »«
Merci beaucoup, » termine Saga en croisant le regard de Yona qui se tient devant elle. « À 14h ?» demande-t-il.
« Oui. » »«
Tomiko Fouette veut voir la photo. On se retrouve dans son bureau après le déjeuner avant d'y aller. »
Tandis que Yona déjeune avec Disa, les techniciens de la Rickscream travaillent sur la photo. Le visage de l'une des quatre personnes est effacé au point de le rendre méconnaissable. Disa retire le récipient de la riseuse en souriant. Elle le tend à Yona et le regarde mouiller ses mains. Il vérifie si le riz a suffisamment refroidi pour qu'il puisse former de petites boules.
« Est-ce que tu savais que Södermalm avait son propre calvaire ?»
demande-t-elle.
« Calvaire ? Ce n'est pas un... »«
Mon Golgotha !»
dit Disa en hochant la tête. Elle ouvre un placard dans la cuisine de Yona, saisit deux verres et verse du vin blanc dans l'un et de l'eau dans l'autre. Le visage de Disa semble détendu. Ses taches de rousseur ont bruni et ses cheveux ébouriffés sont négligemment réunis en une tresse sur sa nuque. Yona se rince les mains et sort un torchon propre. Disa se poste devant lui et pose ses bras autour de son cou. Yona répond à son geste en appuyant son visage contre sa tête. Il respire son odeur et sent ses mains chaudes lui caresser le dos et la nuque.
« On ne peut pas essayer ?»
chuchote-t-elle.
« Juste essayer. »
« Si, »
répond-il à voix basse. Elle le prend dans ses bras, très fort, puis desserre son étreinte.
« Tu m'énerves tellement parfois, »
marmonne-t-elle en lui tournant le dos.
« Disa, je suis comme je suis, mais je... heureusement qu'on ne vit pas ensemble, »
l'interrompt-elle avant de quitter la cuisine. Il l'entend s'enfermer dans la salle de bain et se demande s'il devrait la suivre, frapper à la porte. Mais il sait au fond de lui qu'elle a besoin d'un moment de solitude et décide de continuer à préparer le repas. Il prend un bout de poisson, le pose délicatement dans la paume de sa main et le recouvre d'une fine couche de wasabi. Après quelques minutes, Disa revient dans la cuisine et, depuis le seuil de la porte, le regarde former les sushis.
« Tu te souviens ?»
dit Disa d'une voix rieuse.
« Ta mère enlevait toujours le saumon du sushi et le faisait cuire à la poêle avant de le remettre sur le riz. »«
Oui.
Je mets la table ?»« Si tu veux. »
Disa apporte les assiettes et les baguettes dans la grande pièce et s'arrête un instant près de la fenêtre pour regarder la rue en contrebas. Le feuillage d'un bosquet d'arbres brille d'une couleur vert clair estival. Son regard erre sur le sympathique quartier situé près de la place Nora Nontorget où Yona habite depuis un an. Elle met le couvert sur la grande table blanche, recouverte de poussière, retourne dans la cuisine et boit une gorgée de vin. Il a perdu cette vivacité que lui donne souvent sa fraîcheur. Elle réprime l'envie de s'installer à même le sol et de demander s'ils ne peuvent pas manger par terre avec les mains cachées sous la table comme le feraient des enfants.
« On m'a invité à sortir, »
dit-elle.
À sortir ?
Elle hoche la tête. Elle ressent un besoin furtif d'être un peu méchante sans vraiment le vouloir.
« Raconte !» dit calmement Yuna qui porte le plateau de sushi à table.
Disa reprend son verre et dit d'un ton léger « C'est juste quelqu'un au musée qui me demande depuis 6 mois si je voudrais dîner avec lui un soir. »
« On fait encore ça de nos jours ? Inviter des femmes à dîner ?»
Disa affiche un sourire en coin.
« Tu es jaloux ?»«
Je ne sais pas, un peu, » répond Yuna en s'approchant d'elle. « C'est sympa d'être invité à dîner. »
« Oui ?»
Disa passe ses doigts dans ses cheveux épais.
« Il est beau ?»«
Il se trouve que oui. »«
Tant mieux. »«
Mais je n'ai pas envie de sortir avec lui, »
dit-elle en souriant. Yuna ne répond pas. Il se tient immobile, le visage légèrement tourné.
« Tu sais ce que je veux, »
dit Disa d'une voix douce. Son visage devient soudain étrangement pâle. Des gouttes de sueur se sont formées sur son front. Lentement, il se tourne vers elle, ses yeux sont noirs et son regard dur, insondable.
« Yuna, laisse tomber, »
s'empresse-t-elle.
« Excuse-moi. »
Yuna ouvre la bouche comme pour dire quelque chose. Il fait un pas vers elle lorsque soudain il s'effondre.
« Yuna !»
crie Disa en renversant son verre. Elle s'élance vers lui, le prend dans ses bras et lui chuchote que ça va bientôt passer. Après un moment, le visage de Yuna semble se détendre. L'expression de douleur s'atténue progressivement. Disa ramasse les éclats de verre, puis il s'installe à table en silence.
« Tu ne prends pas tes médicaments. »«
Il me fatigue. Il faut que j'aie les idées claires, c'est très important en ce moment. »
Tu m'avais promis de les prendre.
Je vais le faire.
C'est dangereux, tu le sais, chuchote-t-elle.
Je recommencerai dès que j'aurai résolu cette affaire.
Et si tu ne la résous pas?
De loin, le musée nordique ressemble à un bibelot sculpté dans l'ivoire. Il a été en fait construit avec du grès et de la pierre à chaux. Un bâtiment gracieux, inspiré par l'architecture de la Renaissance danoise, avec de nombreuses tours et tourelles. Le musée était destiné à rendre hommage à la souveraineté des peuples nordiques, mais lorsqu'il fut inauguré, un jour pluvieux de l'été 1907, l'union avec la Norvège était dissoute, et le roi mourant. Yuna traverse l'immense hall d'un pas rapide, et ne s'arrête qu'une fois arrivé en haut de l'escalier. Il rassemble ses esprits, et regarde le sol un long moment avant de passer lentement devant les vitrines éclairées. Rien ne semble attirer son attention. Yuna est plongée dans ses souvenirs, dans ses regrets. Le gardien a déjà approché une chaise pour lui près de la vitrine. Yonalina s'installe et observe attentivement les 8 pointes de la couronne de Marie et Samy, telles 2 mains qui s'unissent. Elles brillent d'une lueur douce derrière la vitre. Une voix résonne dans sa tête, un visage lui sourit. Il est assis au volant de sa voiture. Ce jour-là, il avait plu et le soleil se reflétait dans les flaques d'eau sur la route, comme si elles étaient éclairées par un feu souterrain. Il se retourne vers le siège arrière pour vérifier que Lumi est bien attachée. La couronne de mariée semble être faite de branches claires, de cuir ou de cheveux tressés. Il observe sa promesse d'amour et de bonheur. Se remémore l'expression sérieuse de sa femme, ses cheveux couleur sable qui tombaient délicatement sur son visage.
« Comment allez-vous ? »
Yuna regarde le gardien d'un air surpris. Il travaille ici depuis de nombreuses années. C'est un homme barbu entre 2 âges, les yeux marqués de celui qui les a trop souvent frottés.
« À vrai dire, je ne sais pas, »
marmonne-t-il en se levant. Tandis qu'il quitte le musée, le souvenir de la petite main de Lumi persiste en lui comme un regret. Il s'était retourné pour vérifier qu'elle était bien attachée et avait soudain senti sa main toucher ses doigts.